On vous avait dit qu'on se retrouverait peut-être en Floride pour reprendre les épisodes de Washington D.C. C'est là que Donald Trump devait prononcer son discours à la Convention républicaine. Eh bien, tous les plans ont changé. On vous parle aujourd'hui finalement à partir de Washington, sur le Mall, ce grand parc au centre de la ville. C'est tout près d'ici, sur le terrain de la Maison-Blanche, que Donald Trump a finalement prononcé son discours à la Convention.
Avec des feux d'artifice hein, hier soir, c'est assez incroyable la vitesse à laquelle cette capitale américaine change de visage. Aujourd'hui, c'est fini les feux d'artifice. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de converger pour cette manifestation Black Lives Matter.
Oui, moi je viens de traverser le mall et j'étais assez impressionnée de voir déjà de bon matin des milliers de manifestants et ils font tranquillement la queue, ils respectent les règles, la distanciation sociale, la plupart portent des masques et donc ils font la queue pour pouvoir accéder au Lincoln Memorial où vont se tenir les discours.
Et s'il y a autant de monde, évidemment, c'est parce qu'il y a cette grande manifestation contre les injustices raciales qui est organisée. Vous savez, depuis le mois de juin, beaucoup de choses se sont passées. Ça va très vite aux États-Unis. En même temps, on se retrouve un peu où on était quand on s'est quitté autour de ce thème des injustices raciales, justement.
Oui, la seule différence, c'est que depuis le dernier épisode, eh bien, ça y est, les deux candidats ont été investis. Joe Biden par le Parti démocrate, Trump par le Parti républicain. Et là, on est vraiment rentré dans la ligne droite avant l'élection. On est à quasiment 2 mois maintenant.
Et justement, on va revenir aujourd'hui sur les événements des 2 dernières semaines. Pour en parler aujourd'hui, il y a
Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse,
Sonia Dridi de la RTBF,
Grégory Phillips de France Info
et Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada. Nous allons parler à Anne Corpet qui est dans le Wisconsin dans un instant. Les conventions sont terminées, la campagne est lancée. C'est l'épisode 20 de Washington D.C., le balado podcast des radios francophones publiques.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry and so unproductive.
Washington D.C.
This is not an ordinary election.
Nous sommes donc sur le Mall au cœur de Washington où vous pouvez peut-être entendre derrière nous des appels aux réformes policières, à l'égalité raciale. Et toute cette discussion qui est au cœur du débat politique a été relancée évidemment cette semaine après qu'un policier a tiré 7 coups de feu dans le dos de Jacob Blake, un Afro-Américain du Wisconsin. Les choses ont dégénéré au cours de la semaine à Kenosha et c'est là-bas qu'est notre amie Anne Corpet qu'on va rejoindre à l'instant. Salut Anne.
Salut Raphaël, salut à tous.
Salut Anne.
Comment ça se passe à Kenosha? Qu'est-ce que tu vois sur le terrain?
Là, j'entends qu'il y a pas mal de bruit. Ça commence bientôt, la manif chez vous. J'entends ça derrière toi. Mais ici, ça s'est calmé. Hein. Pour vous planter le décor, Kenosha, c'est au bord du lac Michigan, entre deux gros centres urbains, là, Chicago et Milwaukee. Un centre-ville coquet, une marina sur le lac. Bref, une bourgade qui se croyait à l'abri de ce genre d'événement. Et j'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans une ville traumatisée par le sort de Jacob Blake, bien sûr, mais aussi par la casse au centre de Kenosha. Hein. Toutes les vitrines ont été cassées, des voitures incendiées, et la mort de 2 manifestants tués dans des circonstances un peu obscures par un jeune de 17 ans venu avec son fusil mitrailleur défendre la ville contre les pillards et les émeutiers. Alors ce drame s'est déroulé dans la nuit de mardi à mercredi, quand des dizaines d'hommes armés sont sortis dans les rues pour faire face aux manifestants. Mais leur présence n'a pas choqué hein, Jim, que j'ai rencontré mercredi soir, alors que le cortège de Black Lives Matter sillonnait la ville après le couvre-feu, mais calmement.
There's idiots destroying my town. They're not from here, and that the people need to get together.
Donc il dit qu'il y a des idiots qui viennent de l'extérieur pour détruire Kenosha et que les habitants doivent se rassembler, se débarrasser d'eux et qu'il faut que les habitants de Kenosha prennent les armes pour évacuer ces manifestants.
And I think that all of Kenosha needs to have their guns out to get these people that don't belong here out of our town.
La situation ici illustre parfaitement la fracture de l'Amérique. D'un côté, des habitants terrorisés par le spectacle, des vitrines brisées, des voitures calcinées. Certains ont complètement intégré la rhétorique de Donald Trump. De l'autre côté, des manifestants remontés contre les injustices raciales. en colère. Et il y a aussi dans les quartiers bourgeois du bord du lac des gens qui ont soudainement pris conscience du fait que les Afro-Américains sont vraiment discriminés, même chez eux, ou en tout cas risquent leur peau quand ils sont confrontés aux forces de la police. Et des gens qui vivaient en harmonie malgré leurs différences d'opinion se dressent maintenant les uns contre les autres. J'ai rencontré par exemple une femme, Cathy, outrée parce que sa voisine d'en face, Anna, lui a proposé une arme pour se défendre. Cathy a refusé. Les deux femmes se sont plus parlé depuis. D'ailleurs, Raphaël, Anna m'a dit que si Trump était réélu, eh bien, elle déménagerait au Canada.
Ah ben, c'est vrai que c'est pas très loin, mais effectivement, ça illustre bien les divisions de ce pays-là. Bon retour à Washington, Anne, merci. Et c'est vrai que les émeutes, la loi et l'ordre, ça a été au cœur du message républicain cette semaine pendant la convention. Est-ce que ça peut aider Donald Trump, ça?
Alors moi j'étais à Charlotte, en Caroline du Nord, là où a été lancée la convention républicaine. Et quand vous parlez avec des supporters de Donald Trump, tous se montrent inquiets de ce chaos, de cette anarchie dans les villes américaines. Et ça devient vraiment le fond de commerce du président dans sa campagne de réélection. Écoutez, Barbara Whitman, c'est une des déléguées républicaines qui était présente à Charlotte lors de la convention.
We have one of the worst security situations we've had in this country in 50 years with what's going on.
Et Barbara explique qu'aux États-Unis, en ce moment, c'est l'une des pires situations sécuritaires de ces 50 dernières années. Et pour elle, c'est le résultat de cette gauche extrémiste qui veut créer l'anarchie. Et ils veulent mettre la faute, évidemment, sur Donald Trump. Et les gens, c'est ce qu'elle explique, les gens en ont marre. Et ils veulent la paix, l'ordre. On en revient au message de Donald Trump. Et pour elle, ça va être un tournant dans cette campagne.
Et de toute façon, il suffisait d'écouter quelques minutes de la convention républicaine pour comprendre que c'est un thème central pour les républicains.
We must always have law and order.
President Trump is the law and order president.
We will have law and order on the streets of this country for every American.
Et en même temps, Raphaël, on a vu pendant ces quatre jours de convention que le Parti républicain avait tenté d'adresser des signaux à cette communauté afro-américaine. Je pense par exemple au discours de Tim Scott, qui est le seul sénateur noir du parti, qui a prononcé un discours en milieu de semaine assez fort, assez rassembleur. Je pense à l'intervention d'Alice Johnson, c'est cette afro-américaine qui avait été graciée par Trump à la faveur de sa réforme du système judiciaire et du système carcéral. Donc il y a eu des signaux adressés, mais en même temps, quand on regarde le soir du discours de Trump à la Maison-Blanche sur la pelouse sud où il y a 1500 à 2000 invités, il y a très peu d'Afro-Américains. Ouais. Il n'y a que des Blancs, beaucoup d'hommes âgés de 50 à 60 ans. Donc il y a la volonté d'aller pêcher quelques voix dans cette communauté, mais ça va être difficile, évidemment.
Et évidemment, de l'autre côté, le thème des injustices raciales a pris une place importante chez les démocrates la semaine d'avant pendant leur convention.
Oui, complètement. Le combat contre les inégalités raciales était vraiment au cœur de cette convention démocrate. Le candidat investi Joe Biden a donné la parole au frère de George Floyd. Donc je vous rappelle, George Floyd, c'est cet Afro-Américain qui est mort étouffé sous le genou d'un policier blanc. Durant cette convention, Hillary Clinton et Barack Obama ont dit « Black Lives Matter », mm-hmm. Les vies noires comptent et les mots comptent. C'est vraiment important pour l'électorat démocrate d'entendre cela. Et puis enfin, il y a la candidate à la vice-présidence Kamala Harris, qui est d'origine jamaïcaine et indienne, mais qui s'est posée depuis le début comme une candidate noire. Et elle a dénoncé le racisme structurel.
Kamala Harris qui incarne exactement ce combat des Afro-Américains. Alors j'ai testé l'effet Kamala Harris sur une déléguée démocrate.
Yay! That's my response. So it was important to me to have a black woman on the ticket.
Shanika Perry est une déléguée de Wilmington dans le Delaware, donc le fief de Joe Biden. Et elle se dit, on l'entend, elle est heureuse d'avoir une Kamala Harris sur le ticket démocrate. Et elle dit que pour sa fille, c'est important de se dire que peut-être sa fille ne pensera jamais qu'une femme de couleur n'a jamais accédé à la Maison Blanche. Kamala Harris va briser ce plafond de verre finalement.
Mais je voudrais ajouter tout de même, le Parti démocrate, on le sait, est divisé, hein, notamment entre les seniors et la plus jeune génération. Et beaucoup de militants, notamment les militants de Black Lives Matter, ne sont pas satisfaits. Ils aimeraient de vrais engagements de la part de la campagne Biden. Et ils aimeraient, par exemple, le candidat promette de couper les financements de la police.
Et la candidature de Kamala Harris ne fait pas l'affaire de tous non plus. Je suis allé tendre mon micro à des électeurs dans un quartier afro-américain de Milwaukee, au Wisconsin. Et voici ce que m'a dit Monet. Elle n'a pas voté en 2016. Elle ne pense pas voter non plus cette année.
With everything going on with the George Floyd and, you know, the Black Lives Matter, it's kind of a contradiction because it's like you convicted all these black males and you didn't go back to right do your wrong, so.
Donc, selon elle, c'est un peu contradictoire qu'en plein mouvement Black Lives Matter, on ait nommé Kamala Harris, qui, quand elle était procureure générale de Californie, a contribué à faire enfermer des jeunes hommes noirs. On vous parle évidemment de Washington, près du lieu où se tient cette manifestation. Il y a d'ailleurs de plus en plus de gens autour de nous. Mais on vous a présenté des électeurs, des militants de la Caroline du Nord, du Wisconsin. Ce sont des États clés où devaient avoir lieu les conventions qui ont finalement été essentiellement virtuelles. Alors, comment les partis veulent-ils gagner ces États-là? Commençons par les démocrates parce que, messieurs, on a avec nous une experte de Joe Biden. Sonia, tu viens d'écrire un livre, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump.
Ah, mais c'est vrai, Sonia, ça sort quand d'ailleurs?
Le 16 septembre. J'ai passé mon été à faire ça, très sympa.
Alors, on va avoir recours à ton expertise. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette stratégie de Biden?
Eh bien, la stratégie de Biden, elle a évolué au fil des mois parce que, vous le savez, au départ, il se présentait vraiment comme les candidats du retour à la normale, rassurant, empathique, avec de l'expérience. Et puis, face au poids qu'ont pris les progressistes dans le Parti démocrate, il se pose maintenant en candidat du changement, voire de la révolution. Alors, j'ai parlé à certains de ses proches et parmi eux, l'élu afro-américain Jim Clyburn. C'est vraiment grâce à lui que Biden a remporté la primaire en Caroline du Sud et qu'ensuite, vous le savez, il a enchaîné les victoires. Et Clyburn m'a confié qu'il a dû un peu secouer son vieil ami à la veille de la primaire parce qu'il trouvait sa campagne un peu molle. Voilà, il me dit, je lui ai dit qu'il faisait campagne comme un sénateur, qu'il fallait adopter une approche différente. Ce serait mieux, par exemple, de faire campagne comme un pasteur. Les pasteurs, vous le savez, délivrent souvent des sermons en trois points. Donc, je lui ai dit de penser à trois choses à chaque fois qu'il aborde un sujet ou répond à une question. 1. Qu'est-ce que mon élection va changer pour vous? 2. Qu'est-ce que mon élection va changer pour votre famille? Et 3. Qu'est-ce qu'elle va changer pour votre communauté?
Et d'ailleurs, Sonia, léger changement de stratégie. Biden a annoncé qu'il allait retourner sur le terrain dans les États clés. Donc, on voit que ça bouge un petit peu du côté de la campagne.
Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, Sonia, Biden, il utilise aussi son histoire personnelle hein, durant sa campagne. On peut évoquer l'accident de voiture, la mort de son fils Beau. On propose de lire ton livre pour la suite, pour avoir plus de détails. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que contrairement à Trump, il montre ses faiblesses, il montre ses failles aussi. Il est beaucoup revenu sur ses problèmes de bégaiement. Vous savez que Biden a eu ces problèmes-là. Et durant la convention démocrate, il y a une séquence assez touchante avec un jeune garçon qui explique comment, grâce à sa rencontre avec Biden, il a réussi à surmonter ce handicap. Et on sait que Biden s'est beaucoup entraîné durant sa jeunesse. Il a notamment lu des poèmes irlandais pour être capable de prononcer des discours sans buter sur des mots.
Oui, ben voilà, tu sais déjà tout, il n'y aura plus besoin de lire mon livre. Je vais quand même ajouter qu'en fait, ça fait des décennies que Joe Biden donne son numéro à des personnes qui ont des problèmes de bégaiement, des bègues, et qu'il les coach en fait depuis des années.
Et n'empêche, tout le monde n'est pas convaincu par cette candidature-là. Il y a des gens qui soulèvent des doutes, y compris à Wilmington, où à peu près quoi, tout le monde connaît Joe Biden, c'est son fief.
Oui, parce que comme vous, je suis allé visiter le Wilmington de Biden.
La gare, la piscine,
sa maison, évidemment. Et effectivement, c'est une petite ville. Tout le monde connaît le couple Biden qui est installé là depuis toujours, notamment dans le quartier de Greenville, pas très loin de là où ils habitent, et où ils font leurs courses quasi quotidiennement. Et j'ai rencontré cette vendeuse de vêtements, Sandy, qui les connaît très bien.
Yes, I have Jill's phone number in my phone. Yes, they're very, very nice people.
Oui, j'ai le numéro de téléphone de Jill. Elle me montre son téléphone portable.
Tu l'as noté.
Ils sont vraiment très gentils, ils font leurs courses ici, etc. Simplement, quand on demande à Sandy, qui visiblement apprécie beaucoup les Biden, est-ce que vous pensez que c'est le futur président?
Is he the next president?
I don't think so.
Là, il y a un très long silence, un soupir. Puis elle dit, non, je pense pas, parce qu'il y a quand même un problème, c'est son âge. C'est quasiment son seul défaut, mais il aura 78 ans en novembre. Et c'est un problème qui se pose et qui est sur la table incontestablement.
Je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment eu le même sentiment en allant à Wilmington. Beaucoup d'affection pour le candidat, mais très peu d'enthousiasme.
Et d'ailleurs, les Républicains l'attaquent régulièrement sur son âge à Joe Biden.
Et au-delà de Biden, clairement, les démocrates ont montré pendant leur convention qu'ils voulaient faire de l'élection un référendum sur Trump, sur sa gestion de la COVID-19, qui a maintenant fait 180 000 victimes aux États-Unis. Stratégie évidemment complètement différente chez les républicains. On a beaucoup moins parlé de la COVID. Il y a d'ailleurs eu des événements parfois devant des centaines de personnes avec peu de distance peu de masques. Et le message était beaucoup plus centré sur donc la loi et l'ordre. On a accusé les démocrates d'être des socialistes, entre autres. Et c'est un message qui a notamment été porté par le fils du président Don Jr. et par sa conjointe Kimberly Giffold, qui a fait un discours qui, je pense, on peut dire, a fait pas mal réagir.
Elle a été très remarquée.
Assez hallucinant.
On va dire une incarnation très réussie de la fin du monde.
They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe so that they can control how you live.
Kimberly Guilfoyle, c'est la petite amie de Donald Trump Jr. et c'est aussi une ex-animatrice de la chaîne longtemps favorite du président, Fox News. Donc elle est très connue par les partisans de Trump et sa prestation en fait a été très remarquée parce qu'elle a livré un discours enflammé avec de grandes envolées, en plus devant un auditorium vide, avec un sourire souvent figé. Elle s'est posée en défenseuse des combattants de la liberté et du rêve américain. Alors ça marche plutôt pour les partisans de Trump puisqu'elle a vraiment défendu l'Amérique de Trump. En tout cas, l'opposition s'en est donnée à cœur joie sur Internet. Il y a plusieurs vidéos qui se sont moquées de sa prestation, notamment une marmotte qui s'égosille au sommet d'une montagne.
C'est quoi déjà le hashtag sur Twitter pour suivre ces parodies?
Alors je crois que c'est Guilfoyle Challenge.
Et puis je te jure, Raphaël, qu'on va pas commencer une chronique potin dans Washington DC, mais faut quand même expliquer que cette Kimberly est l'ex-femme de l'actuel gouverneur californien. Démocrate. Donc elle était avec Newsom, elle est maintenant avec le fils de Donald Trump.
Et l'ancienne première dame de San Francisco.
Exactement.
Et donc, on accuse clairement les démocrates d'être des radicaux, on l'a entendu jour après jour, mais les républicains ont aussi fait une place quand même à certains éléments radicaux au sein de leur parti.
Oui, alors moi j'ai regardé la liste des invités qui étaient à la Maison-Blanche pour le discours de Trump, et dans cette liste, on a quand même remarqué, elle a été d'ailleurs filmée par toutes les télés, Marjorie Taylor Greene. Vous vous souvenez qui c'est? Jeune pousse du Parti républicain.
En Géorgie.
Qui a remporté la primaire de Géorgie, qui sera très certainement élue à la Chambre des représentants en novembre, et qui a une particularité, c'est d'abord qu'elle est extrêmement radicale. Dans ses clips de campagne, elle tire à l'arme de guerre sur le mot socialisme, etc. Mais surtout, elle est conspirationniste. Elle relaie très régulièrement les thèses les plus folles, par exemple sur les attentats du 11 septembre.
We had witnessed 9/11, the terrorist attack in New York, and the plane that crashed in Pennsylvania, and the so-called plane that crashed into the Pentagon.
Et là, dans cet extrait de 2018, par exemple, Marjorie Greene, dont Trump dit quand même que c'est la star montante du Parti républicain, qui a été invitée à la Maison-Blanche, explique que pendant les attentats du 11 septembre 2001, il n'y a pas d'avion qui s'est abattu sur le Pentagone.
Et elle est aussi membre d'une mouvance qui monte actuellement aux États-Unis, c'est ce mouvement complotiste QAnon.
Oui, les conspirationnistes, communauté créée sur Internet, avec de plus en plus d'échos dans ce pays, c'est vrai. On se souvient, avant l'épidémie, dans les meetings de Trump, ces gens qui portaient la lettre Q au-dessus de leur tête. Bon, Marjorie Taylor Greene relaie très régulièrement sur ses réseaux sociaux des théories émises et formulées par ces gens de QAnon. C'est quand même assez inquiétant.
Oui, et Donald Trump a dit qu'il ne savait pas très bien quel était ce groupe, mais qu'il le supportait, alors tout va bien.
Et puis une autre révélation, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais une autre révélation de cette convention républicaine, c'est le couple des McCloskey, vous vous rappelez?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais.
Ce couple du Missouri qui a... Ils avaient pointé leurs armes sur des manifestants Black Lives Matter et ils ont été invités durant la convention. Ils sont décrits comme des citoyens honnêtes qui ont défendu leur maison face à des anarchistes, face à une foule énervée, qui ont aussi au passage défendu le second amendement. Et quand on pense à Kenosha, Anne qui nous parlait de ce qui se passe en ce moment dans le Wisconsin, ces milices armées dans les rues, à mon avis, elles se sentent légitimées, presque soutenues par le président américain.
Donc clairement, on sent que les républicains ont voulu lancer le message à la base pur et dur qu'il fallait aller aux urnes pour appuyer Trump en novembre. Mais il y avait aussi un message qui était destiné à ceux, surtout en fait à celles qui sont moins convaincues de la candidature du président. Pendant la convention, il y a plusieurs femmes, entre autres, qui sont venues prendre la parole. Kellyanne Conway, qui quitte la Maison-Blanche d'ailleurs, sa conseillère, sa fille Ivanka Trump, Kelly McEnany, la porte-parole de la Maison-Blanche, et qui sont venues présenter un côté peut-être plus personnel. Elles ont dit que Donald Trump était une personne plus empathique, loin de ce qu'on voit devant les caméras, de l'image publique qu'il dégage. C'est une manière pour le Parti républicain de tenter de s'attaquer au déficit important de Donald Trump auprès de l'électorat féminin.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait franchement beaucoup d'indécis aux États-Unis, des gens qui tout à coup vont se dire « oui, je vais voter Trump ».
Non, et puis en plus, on le voit dans les sondages, la grande, grande majorité des républicains sont toujours très satisfaits de Donald Trump.
Les discours desquels on vient de vous parler dans cet épisode, on les a essentiellement regardés quoi? Dans votre cas, c'est ordinateur,
télévision, écran d'ordinateur. smartphone.
Voilà.
Enfin, c'est pas clairement l'idée qu'on se faisait de couvrir une grande convention politique avec les ballons, les milliers de personnes dans les amphithéâtres. Mais bon, pandémie oblige, les partis se sont adaptés. On s'est adapté aussi. Ça a donné lieu à de nouvelles formules. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on garde, des trucs qu'on jette à la poubelle?
Alors, ce qu'on jette à la poubelle, c'est qu'on a été tenus, nous, journalistes non-américains en tout cas, enfin en tout cas c'était mon cas, à l'écart hein, de ces conventions. Par exemple, j'étais à Wilmington le soir où Biden a prononcé son discours d'acceptation. J'étais même pas accrédité pour aller sur le parking duquel on pouvait voir le bâtiment où Biden prononçait son discours. Et il y avait très peu de journalistes autorisés à aller sur ce parking. Donc, on a vraiment suivi ces deux conventions démocrates et républicaines à distance. Et évidemment, c'est très frustrant. Normalement, on aurait pu approcher encore un
Bien
peu
sûr.
Les candidats,
leurs
entourages, échanger avec eux, comprendre les stratégies, etc. Là, on est un peu bloqué, effectivement, devant un écran d'ordinateur ou de télévision.
L'avantage, par contre, c'est qu'on va à la rencontre de gens qui n'iraient pas nécessairement dans des conventions, dans des rassemblements politiques. Et ces gens-là, ils vont être importants pour l'élection.
Alors moi, il y a quelque chose quand même que j'ai trouvé pas mal, hein, que, notamment côté démocrate, c'est le roll call, l'appel des délégués qui annoncent les voix.
California, home to our next vice president, Kamala Harris. Cast 231 votes for Bernie Sanders
and 263 votes for our next president, Joe Biden.
Et en fait, eh bien, comme ils ne pouvaient pas être sur place, on a vu les délégués à New York, dans les champs du Kansas, sur l'île de Puerto Rico. Et donc, ça nous a fait un peu voyager. Moi qui étais à la convention démocrate il y a 4 ans, en général, le roll call est un peu ennuyeux. Et là, j'ai trouvé ça plutôt sympathique.
Ça faisait un peu final quand même de l'Eurovision, non?
Raphaël, tu connais l'Eurovision? C'est un truc européen de...
Très peu, mais je sais que Céline Dion a déjà gagné l'Eurovision.
Pour la Suisse?
Bon, bah, t'es très bien calé, parfait, tout va bien.
Moi, ce qui m'a marqué, franchement, c'est le silence à la fin des discours. Hein, vu qu'il n'y a pas de public, ça se fait dans des salles vides. Ça peut être un discours qui est franchement très bien écrit, très puissant, mais ce silence, ça nous permet pas de sentir en fait le résultat sur les gens, enfin l'émotion au travers des électeurs. Et j'ai l'impression que avec ces deux conventions virtuelles, pour nous en tant que journalistes, c'est compliqué à sentir, à lire en fait cette campagne qui est en train de se dérouler.
Bon, vous l'entendez près de nous, la manifestation contre les injustices raciales s'apprête à commencer. Ce sont deux semaines extrêmement occupées en politique américaine qui viennent de prendre fin. Mais en fait, vous le savez comme moi, le rythme ne va que s'accélérer d'ici le 3 novembre. Et bien sûr, chers auditeurs, nous serons là pour vous accompagner dans votre fil de balado, bien sûr, mais aussi sur Twitter, n'est-ce pas?
Oui, où on vous a présenté nos premiers, comment dit-on en bon français, nos premiers goodies, voilà. Objets promotionnels avec un magnifique masque anti-coronavirus.
Que tu portes à l'instant, Grégory.
Aux couleurs, évidemment, de Washington D.C.
Le slogan Washington D.C.
Alors, nous serons au rendez-vous, évidemment, ici à Washington, mais à peu près partout dans les États pivots qui seront importants pour cette élection. C'est parti pour la saison électorale de Washington D.C., le balado podcast des radios francophones publiques. À bientôt.
Au revoir.
Washington DC avec
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Sonia Dridi pour la RTBF.
Grégory Phillips, France Info.
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Réalisé par
Daniel Martineau.